ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans le numéro 48 de JAF ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane sur RLP 102.3 FM dans le Périgord. Aujourd'hui, nous aurons une interview exclusive du député UDI de la Somme, Monsieur Grégory Labille, qui est un professeur des écoles et qui nous expliquera pourquoi la PPL sur la résidence alternée, la modification du code civil, ne pourra pas être présentée le 25 mars. Nous aurons également les actualités politiques et la suite du lobbying et un petit moment d'amusement avec une réaction au tweet de Madame Laurence Rossignol, ex-ministre de la Famille, qui se demande où sont les pères, après avoir passé une grande partie de sa carrière à tenter de les faire disparaître. Nous verrons, via notre extrait médiatique de Madame la ministre Emmanuelle Wargon, que nos idées progressent au plus haut niveau. Nous aurons également le retour de la rubrique « Chansons de la semaine », que vous étiez nombreux à regretter. Eh bien, la voici donc de retour. Mais tout de suite, Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste pour des conseils de parentalité à destination des parents isolés. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Thierry Lavergne sur RLP, aujourd'hui pédopsychiatre en libéral et en service public sur Aix-en-Provence et psychanalyste de profession. Monsieur Lavergne, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là. Je suis très heureux de vous retrouver tous. Bonjour Stéphane.
Oui, nous aussi, dans cette rubrique qui nous aide à nous occuper et à gérer nos enfants dans leur évolution. D'ailleurs, à ce titre, comment peut-on gérer l'éducation de son enfant quand, pour des raisons malheureuses, on est le seul parent disponible parce que, par accident ou accident de la vie tout simplement, on est une famille monoparentale, on est soit une mère avec son enfant seul, soit un père avec son enfant seul, donc il manque la seconde composante, et bien comment fait-on ?
C'est plus compliqué, mais c'est pas du tout une tâche impossible, évidemment. C'est plus compliqué, il faut le savoir. Et c'est pour ça que je recommande toujours, quand il y a un deuxième parent, de tout faire pour que le deuxième parent soit impliqué, même si quelquefois il s'agit d'un parent qui va pas montrer tellement d'intérêt pour.
Mais parfois il n'est pas là, il est décédé. Parfois il est vraiment physiquement absent.
Et ça fait partie des situations de la vie qui ne sont pas nouvelles. Et la seule chose que je peux dire, c'est que c'est plus compliqué que quand il y a deux parents, mais il y a quelques précautions à prendre qui sont très simples. C'est que, et quand il y a deux parents, d'ailleurs, c'est compliqué aussi de toute façon d'élever un enfant. Hein. Et pour revenir à votre question sur les familles monoparentales, c'est vraiment, d'abord il y en a beaucoup aujourd'hui, et ce qui est compliqué en fait, c'est que l'enfant ne se sent pas emprisonné dans le désir d'un adulte et d'un seul adulte. Le grand risque, quand il y a un seul parent, c'est que l'enfant soit un petit peu mis sur un pied d'égalité avec le parent en question. Et du coup, soit l'enfant se retrouve adultisé, là, c'est pas du tout bon parce qu'il a perdu son enfance, soit l'enfant en arrive même à inverser la relation et à protéger son parent, qui par exemple est un peu triste d'être tout seul, etc. Et c'est l'enfant qui va servir à le consoler. Et du coup, c'est pareil, cet enfant perd son enfance. Voilà les risques, on va dire, majeurs qu'on peut rencontrer en clinique, hein, et sur lesquels on peut agir d'ailleurs pour éviter ce genre de situation. Dans la situation où le parent a une vie sociale, est très bien intégré et n'a pas de difficultés, je dirais, à faire du lien social avec d'autres personnes, mais est le seul parent et le seul référent parental de son enfant, eh bien, je dirais qu'assez naturellement, ce parent-là va laisser l'enfant se développer avec l'idée que le parent s'occupe de lui, mais ne s'occupe pas de lui selon son bon plaisir. Il s'occupe de lui en référence à des règles que lui-même a apprises quelque part, en référence à des recommandations que lui-même a lues quelque part, en référence à ce que va dire l'enseignant sur son travail à l'école, en référence, etc., etc. C'est-à-dire que ce qui compte beaucoup pour l'enfant, c'est de savoir que le parent seul, qui l'élève, ne va pas l'élever sans qu'il y ait dans la tête de ce parent-là la possibilité pour que cet enfant grandisse et devienne lui-même un adulte.
D'accord. Donc on ne s'approprie pas l'enfant, et au contraire, on lui tient un discours qui lui indique que ce qu'on fait pour lui est basé sur la raison et des références tierces.
Absolument. C'est, voilà, vous avez tout à fait résumé ce que j'essayais de dire. Oui, c'est tout à fait ça.
D'accord. Merci.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
RLP. Radio Libre en Périgord.
L'actualité du lobbying politique de l'association Égalité Parentale de Thierry Berger avec les rencontres de février. Donc, Laurence Vansenebrock, députée LAREM de l'Allier, membre de la commission des affaires sociales, acquise à notre cause, qui propose de voir si on ne pourrait pas faire un projet de loi PJL, un texte législatif d'initiative gouvernementale, au lieu d'une PPL. Bon, c'est en discussion. Madame Lise Magnier, députée Agir de la Marne, qui est acquise à notre cause, qui va voir si son groupe parlementaire pourrait porter leur PPL. Monsieur Didier Bécher, député LAREM des Yvelines, membre aussi de la commission des affaires sociales, qui est lui aussi convaincu par notre cause. Ça avance, ça avance. Valérie Petit, députée LAREM du Nord, rencontrée par un père de l'association qui connaît très bien Sophie Oconi et qui est favorable à la RA. Voilà. Monsieur Jean-Christophe Lagarde, député UDI de Seine-Saint-Denis, qui effectivement lui aussi est convaincu à notre démarche. Là pour l'instant, la PPL 3163 qui est devenue 3852 sera remise à l'ordre du jour, mais voilà, elle ne pourra pas être discutée faute de temps. Nous vous expliquerons pourquoi juste après que monsieur Labille. Nicole Dupré-Chira, députée LAREM de Maine-et-Loire, membre de la commission des lois et rapporteuse du texte sur le respect des principes républicains, elle est mitigée. Pour elle, les hommes ne s'impliquent pas assez dans le foyer et ne demandent pas la RA. Elle a de gros doutes sur une délinquance supérieure chez les enfants de familles mono-éducantes. Écoutez, il y a encore quelques résistances, il faut encore travailler. Marie-Andrée Blanc, directrice de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, c'est intéressant ça, et monsieur J.B. Valla, directeur des politiques et actions familiales, ils sont en phase avec nous, ils sont convaincus de la nécessité d'une loi pour davantage de résidences alternées. Et ils sont rassurés que la PPL ne l'automatise pas. C'est qu'ils sont convaincus qu'il faut une loi, mais ils ne veulent pas automatiser. Bon, ils vont en parler à M. Adrien Taquet et ils vont essayer de transformer la PPL qui ne sera pas discutée en projet de loi porté par le gouvernement. Nous avons beaucoup d'espoir et nous continuons notre lobbying, même si, écoutez, c'est pas tout le temps le plus facile à faire.
RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 avec aujourd'hui monsieur Grégory Labille, député qui a porté la PPL 3852 qui malheureusement ne sera pas présentée par l'UDI. Monsieur Labille, vous êtes avec nous ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette proposition de loi ne sera pas présentée dans la niche parlementaire de l'UDI ?
Alors parce que l'UDI, enfin j'aurais voulu resituer dans un premier temps cette proposition de loi que j'ai découvert très tardivement puisqu'elle était portée au départ par ma collègue Nicole Sanquer. Et puis lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, on m'a expliqué que d'une part Nicole Sanquer ne pouvait plus s'en occuper et mon autre collègue Valérie Six non plus. Et donc c'est avec plaisir que j'ai pris la main sur ce sujet-là, d'autant que tous les sujets autour de la famille, de la parentalité sont des choses qui m'interpellent. Donc, lorsque j'ai eu en main cette proposition de loi, ça fait maintenant un peu plus d'un mois, on m'a expliqué que le choix avait été fait de solliciter en examen simplifié. Et dans l'examen simplifié, il faut pouvoir recueillir le consentement de l'ensemble des présidents de groupe. Or, on avait fait un gros travail pour convaincre l'ensemble des présidents de groupe de passer cette loi en examen simplifié et nous n'avons jamais eu de réponse des Républicains et de l'AREM. Donc, ce qui fait que cette loi a été retirée.
D'accord. Nicole Sanquer, qui est députée de Polynésie française, je ne m'abuse.
C'est ça.
D'accord.
Et comme elle n'était plus sur place et qu'elle a peu d'occasion de revenir, elle ne pouvait plus porter ce projet de loi. ce que j'ai fait avec plaisir.
D'accord. Est-ce qu'il y a des éventualités, des projets, des partenariats, des contacts, un futur peut-être pour cette PPL?
Je pense que cette PPL, elle est pas, pour moi, elle n'est pas abandonnée. C'est un sujet, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un beau sujet de maintenir des liens équilibrés entre les deux parents en cas de du mode de résidence, et si pour autant elle n'a pas été examinée en procédure simplifiée, je n'imagine pas qu'elle puisse revenir un moment dans le débat, et je serai là encore pour pouvoir la défendre.
Mais est-ce que vous avez établi des contacts au niveau de l'AREM ou du gouvernement par rapport à cette PPL?
On a commencé, mais là on était pris par le calendrier où on devait avoir la réponse avant le 8 février, ce que l'on a tenté de respecter le calendrier, ça n'a pas été possible, mais maintenant charge à nous de poursuivre ce lobbying en direction de l'AREM et des Républicains. J'avoue que c'est pas un sujet facile. Moi qui les couvre un peu, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'association SOS Papa, plutôt favorable à ce projet de loi. Mais il y a certaines associations, notamment des associations féministes, qui sont plutôt réticentes à ce projet de loi. Or, on arrive en fin de mandat et c'est un sujet qui est un peu clivant. Et j'imagine qu'il est difficile de prendre des risques à des échéances électorales à venir.
Oui, nous sommes nombreux à nous dire que dans cette législature, nous aurons peut-être des difficultés à aborder ce thème. Et vous, Monsieur Labille, vous êtes député de quelle circonscription ?
Alors, je suis un tout jeune député, enfin j'ai 52 ans, mais je suis un tout jeune député élu depuis le 8 octobre 2020. Et je suis dans ce beau département de la Somme, dans la 5e circonscription.
Qu'est-ce qui a fait que vous, Monsieur Labille, vous soyez emparé de ce sujet, de la résidence alternée, de fait de devoir garder un lien entre l'enfant et ses deux parents, ses deux composantes, en cas de séparation, y compris les séparations les plus compliquées? Pourquoi est-ce que vous êtes allé dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous touche?
En fait, c'est à titre personnel. J'ai moi-même 4 enfants et j'ai une de mes filles qui est en procédure de divorce, mais pour le coup, qui a 2 enfants, mais pour le coup, ça semble bien s'orienter et les parents font preuve d'intelligence et ils mettent en avant l'intérêt supérieur de l'enfant.
Donc vous êtes grand-père.
Oui, je suis grand-père de 2 petits-enfants de 5 et de 3 ans. Et pour le coup, eux, ils sont des parents intelligents et qui voient l'intérêt supérieur de l'enfant. Malheureusement, ça n'est pas le cas partout. Et ce que l'on observe au regard des études qui ont été menées, c'est que la maman a, en cas de résidence exclusive, la maman a 70%, c'est elle qui a la garde exclusive. Et à titre personnel, moi j'ai toujours considéré que l'enfant avait autant besoin de son papa et de sa maman, et que de séparer de l'un des deux parents, ça n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mais au-delà de sa branche familiale, je veux dire, avec la maman viennent une partie des oncles, des tantes, des cousins, des grands-parents, et avec le père vient aussi l'autre partie des oncles, des cousins, des tantes, des grands-parents. Donc l'enfant a besoin des deux composantes de son arbre, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est à ce titre-là que j'ai porté ce sujet-là et que je serai sûrement amené à redéfendre par la suite.
D'accord, très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez essayé de faire nous verrons plus tard. Voilà.
Ça marche. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée,
monsieur. Merci.
Au revoir.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Madame Laurence Rossignol, ex-ministre de la Famille, s'est fendue le 10 mars 2021 d'un tweet qui indique « Des adolescents meurent, tués par d'autres adolescents. Les mères parlent, crient leur douleur, leur culpabilité. Mais on n'entend pas les pères. Où sont-ils, bon sang ?» Donc nous rappellerons que Madame Laurence Rossignol est une ultra-féministe qui nous expliquait que le père en fait pouvait être absolument n'importe qui et qui n'avait aucun intérêt dans la famille et dans l'éducation en tant que telle. Madame estime notamment que le syndrome d'aliénation parentale n'existe pas et elle le raille régulièrement lors de ses interventions. Il se trouve que ce tweet n'est pas passé inaperçu et que sur une émission de nos confrères sur CNews, un dénommé Éric Zemmour lui a fait une petite réponse que, eh ben écoutez, en parlant entre nous, nous pensons qu'elle méritait d'être diffusée.
Des adolescents meurent, tués par d'autres adolescents, les mères parlent, crient leur douleur, leur culpabilité, mais on n'entend pas les pères. Où sont-ils, bon sang ? Voilà ce qu'a écrit sur Twitter la sénatrice de l'Oise, Laurence Rossignol, en réaction aux nombreuses violences qui sévissent parmi les jeunes, et notamment à Argenteuil, où, on le sait, voilà, la collégienne est morte, noyée après une dispute entre deux collégiens. Éric Zemmour, on rappelle hein, que Laurence Rossignol était aussi ancienne ministre de la Famille. En quoi l'absence des pères a-t-elle un lien avec ces violences ?
Alors d'abord, revenons sur Laurence Rossignol, parce que quand même, ce tweet va rester dans les annales. Vous savez, on dit depuis Platon, je crois, pas un grand spécialiste de philosophie, mais je crois que c'est ça, que le principe de non-contradiction est à l'origine de la pensée occidentale. Le principe de non-contradiction. Laurence Rossignol nous dit « Où sont les pères ?» Laurence Rossignol, que je connais depuis à peu près 30 ans, a été ministre de la Famille, sénatrice socialiste, mais elle est d'abord et avant tout une militante féministe.
Elle est présidente de l'Assemblée des Femmes.
Merci. Vous savez, je la connais très très bien. Et elle milite depuis 30 ans contre le patriarcat. Elle nous explique que le père peut être n'importe qui, une femme, une grand-mère, un oncle, que tout ça n'a aucune importance et que la notion même de père est une arme au service du patriarcat pour asservir les femmes et les enfants. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit où sont les pères ? Mais qu'est-ce que c'est le père dans cette expression-là ? C'est toute la société traditionnelle, revisitée par la psychanalyse, qui nous explique que le père, c'est l'homme qui dit non, qui sépare l'enfant de la mère. Les psychanalystes nous ont expliqué ça à foison, c'est-à-dire que la mère est en fusion avec l'enfant, puisque l'enfant, vous savez que l'enfant de l'homme est le seul animal qui n'arrive pas fini quand il naît, et donc il a besoin pendant 3 ans de sa mère, sinon il meurt. C'est le seul animal dans ce cas-là. Donc, évidemment, la mère doit nourrir son enfant, et donc il y a un rapport, la mère dit toujours oui à son enfant, puisqu'évidemment, elle doit le nourrir. Et le père, ça c'est à la fois dans la Bible et à la fois dans Freud, c'est l'homme qui sépare l'enfant de la mère. Et donc, c'est le représentant de l'interdit. Vous voyez ? Ça, c'est dans les sociétés traditionnelles. Ces sociétés traditionnelles patriarcales que Madame Rossignol a vomi depuis 40 ans. C'est quand même extraordinaire de venir pleurer aujourd'hui en disant « Mais où sont les pères ?» alors qu'on les a éradiqués, voire castrés.
Défendre les femmes, c'est pas forcément...
Je parle de Madame Rossignol.
Oui, complètement. Défendre les femmes, c'est pas forcément vomir sur les pères.
Madame Rossignol, si. Vous avez raison. Hypothétiquement et intellectuellement, vous avez raison. Mais dans la vraie vie de la bataille idéologique, accordez-moi que vous avez tort. C'est-à-dire que dans la vraie vie de la bataille idéologique du féminisme depuis 40 ans, ça a été de démolir la fonction paternelle parce qu'elle représentait la fonction patriarcale, tout simplement. Et que donc, il fallait s'émanciper, et les femmes et les enfants, de cette autorité patriarcale. Et aujourd'hui, on vient nous dire, mais alors, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pas là, c'est tout. Soit ils sont pas là physiquement, divorce de masse, les enfants sont toujours gardés par les mères, et en plus, beaucoup interdisent le droit de visite au père. Et puis, pour être honnête, beaucoup d'hommes s'en débarrassent et, une fois divorcés, ne s'occupent plus de leurs enfants. Je ne suis pas là pour excuser les pères. Deuxièmement, où sont les pères ? On leur a expliqué qu'il ne fallait plus rien dire, qu'il ne fallait plus être autoritaire, qu'il ne fallait plus être macho, qu'il ne fallait plus mettre une fessée à leur môme, qu'il ne fallait plus dire non, que la mère avait le droit aussi d'être l'interdit, donc ils se taisent. Certains, d'ailleurs, ça les arrange, et les autres font profil bas parce qu'ils savent que ils n'ont pas intérêt à la ramener puisque c'est honni et qu'ils pourraient être dénoncés à Madame Rossignol, entre autres. Donc, où sont les pères ? Ils ne sont plus là. Et où physiquement, ou idéologiquement ? Et Madame Rossignol, au bout de ce travail magnifique, où je répète, Emmanuel Macron lui-même, je rappelle l'année dernière, qui a dit à je sais plus qui, votre problème, c'est que vous pensez que le père est forcément un homme. C'est entre guillemets la phrase d'Emmanuel Macron. On vient pas nous dire après où sont les pères. Là, il faut arrêter le n'importe quoi et le principe de contradiction. Vous savez, ma fameuse phrase de Bossuet, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Donc, il faut à un moment arrêter. Donc, que Madame Rossignol choisisse, soit elle veut le retour du père à l'ancienne, soit elle ne veut pas, et dans ce cas-là, qu'elle ne vienne pas se plaindre de son absence. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous me dites, est-ce que c'est l'absence des pères qui cause tout ça ? Moi, je vais vous dire, je serais plus nuancé que ça. Parce que c'est comme les explications sociales. On nous explique toujours que c'est parce qu'ils sont pauvres, qu'ils s'étripent et qu'ils volent, etc. Mais c'est infamant pour les pauvres. Tous les pauvres ne sont pas des voleurs, des violeurs, des assassins, etc. Et ben c'est la même chose pour les familles monoparentales. Tous les enfants de familles monoparentales ne deviennent pas des délinquants. C'est débile de dire ça. Et tous les enfants avec un père qui n'est pas vraiment autoritaire ne deviennent pas des assassins ou des voleurs. Vous voyez, il faut, à un moment, il faut peut-être relativiser. Moi, je veux bien que l'absence du père peut poser des problèmes psychologiques, etc., etc., ce que j'ai dit tout à l'heure.
D'autorité, etc.
Voilà, d'autorité, et puis de problèmes d'aller vers les autres, parce qu'on est toujours en fusion avec la mère, etc. Mais enfin, faut pas non plus tomber dans le lieu commun et dans la caricature. Enfin, un peu, vous voyez, il faut un peu nuancer tout ça.
Les experts même, ils disent que si la plupart des délinquants sont issus des familles monoparentales, c'est pas parce qu'on est issu de familles monoparentales qu'on devient délinquant.
C'est bien ce que j'ai dit. On est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, un problème. C'est-à-dire que je pense que le garçon devient le chef de famille. Au-delà de l'absence des pères, de divorce de masse, etc., etc. Vous l'avez dit vous-même, tous les enfants de familles monoparentales ne sont pas délinquants, grâce à Dieu. Donc on voit que c'est pas aussi mécanique que ça.
Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que nous avons interrogé nombre d'experts sur ce travail idéologique qui a été effectué contre la présence des pères dans la famille. Je vous renvoie donc à l'émission numéro 5 avec Raphaël Delpar. Je vous renvoie également à l'émission 6 avec Sylvie Hippolyte, qui nous explique que cela date effectivement d'un certain temps. Thierry Berger dans l'émission 7. Madame Le Prince, association de grands-parents qui se plaint des conséquences pour les grands-parents sur les séparations mal gérées. La playlist numéro 12 montre que les familles homoparentales ont les mêmes problèmes que les familles traditionnelles dans le cadre des séparations. Nous avons aussi l'émission numéro 17 avec Monsieur Pierre Durand des permanences de Dijon qui a géré, on va dire, vu passer plusieurs centaines de dossiers, qui a donc une expérience sur le sujet. Le psychanalyste Jean-Pierre Winter qui est venu nous voir dans Jaftamer numéro 18. Le sociologue bien connu Gérard Néran dans l'émission numéro 20. Dans l'émission numéro 22, Monsieur Patrick Guillot et Jean Gabart. L'écrivain Jean-Pierre Cambefort dans l'émission 32. L'avocat Nathanaël Machster dans les émissions 38 et 39. L'expert de cour d'appel Monsieur Gérard Poussin dans les émissions 40 et 41. Madame Dominique Maz dans les émissions 43 et 44. Madame est auteure et aussi expert en cour d'appel. Et nous l'avons aussi évoqué dernièrement avec Madame Castelin-Meunier du CNRS dans les émissions 46 et 47 en appuyant sur le point de vue historique. Le bon côté, c'est que nos idées progressent au plus haut niveau. J'en veux pour preuve une intervention à peu près les jours suivants de la ministre actuelle du logement qui a dans une intervention abordé un point qui nous a beaucoup plu et très séduit. Je vous laisse l'écouter et je commenterai ceci juste après.
Donc en fait, on a besoin de logements en France. On a besoin de logements parce que nos familles évoluent, nos manières de vivre évoluent. Et donc quand un couple se sépare avec des enfants, il y avait un logement, il en faut deux. Il faut des logements suffisamment grands pour pouvoir accueillir les enfants en garde alternée ou le week-end.
Merci madame. Oui, nous avons besoin de logements pour permettre aux gens séparés de pouvoir demander la résidence alternée parce que pour avoir les enfants en droit de visite ou en résidence alternée, il faut une chambre pour les recevoir. Si vous n'avez pas une chambre pour accueillir vos enfants, le tribunal ne vous en confiera pas la garde ni la résidence alternée. Et puis, soyons honnêtes, l'avantage des logements sociaux, c'est qu'ils respectent certaines normes et quand on voit ce qu'on nous propose dans le secteur du privé, dans quel état c'est et à quel prix, eh bien, régulièrement, on est quand même très heureux de trouver ces logements gérés par l'État. Nous vous remercions de dire cela sur une télévision nationale à une heure de grande écoute parce que nous rencontrons régulièrement des gens qui n'arrivent pas à voir leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de quoi les loger et que les services sociaux, quand ils vont les mettre dans les HLM, dans les logements sociaux, ne prennent pas forcément en compte ce besoin de pouvoir recevoir les enfants durant les week-ends ou en cas de résidence alternée. Je suis personnellement pour les logements sociaux, je vis actuellement en HLM, j'ai déménagé pour avoir la résidence alternée et j'ai été extrêmement heureux que les services de Périgueux prennent en compte ma situation pour que ma fille ait sa chambre une semaine sur deux et donc que je puisse avoir la chance de participer à son éducation, car sinon je n'aurais pas pu avoir la résidence alternée. Donc merci madame, et vous voyez, nos idées avancent dans la société et peut-être que notre travail finalement n'est pas totalement vain.
Voici maintenant la chanson de la semaine.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe, et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens porté. Un jour est une fête. Quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. C'est ça.
Love.